Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Graphite 94.9. Vous écoutez La Voix est Libre, une émission de l'association Picassoft, association UTCN Chaton, qui s'est donné pour mission de sensibiliser et de former les citoyens aux enjeux du numérique et qui héberge des services web respectueux de la vie privée. Aujourd'hui, on commence une probablement série d'au moins deux émissions et au maximum de 20 émissions sur le droit d'auteur et les licences libres. Et pour cette première émission, ce sera une initiation au droit d'auteur. Pour ça, on a le plaisir de recevoir Benjamin Jean. Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Et pour le reste de l'émission, on est accompagné, comme d'habitude, de Stéphane, Rémi et Romain de Picassoft. Salut à vous.
Salut Quentin.
Et donc, je passe la main à Romain pour la traditionnelle interview.
Bonjour Benjamin, déjà.
Bonjour.
Tu es à ma connaissance un des premiers qui a mené des recherches juridiques sur les domaines des licences libres. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ton parcours et puis de ton sujet de thèse ?
Oui. Alors, je ne suis pas le premier. Hein. D'autres avaient commencé avant moi, mais bon, je pense que ça fait maintenant quelques années que je suis dessus, donc je peux parler à la fois de ce qui était fait avant et de là où j'en suis maintenant. Donc, je suis juriste de formation. Je dirais que en même temps que j'ai commencé à m'intéresser au droit, je m'intéressais au développement à l'informatique. Mmh. Et j'avais aussi une pratique, pour comprendre d'où je viens, j'ai une pratique artistique, donc il y a musicale qui était assez importante. Okay. Et en fait, de tout ça, de l'art, de l'informatique, du développement et du droit, j'en ai fait une spécialisation sur la propriété intellectuelle. Justement parce que c'était la branche, je dirais, du droit qui était la plus proche de la pratique et de ce qui m'intéressait par ailleurs. Mmh. Et la propriété intellectuelle, donc c'est quelque chose qui veut tout dire et rien dire à la fois, donc c'est un ensemble de droits exclusifs, de droits de propriété, comme ce qu'on peut avoir sur un objet matériel, mais qui s'applique à l'immatériel, donc les idées, les créations diverses et variées, notamment la musique, notamment les logiciels et tout ce qui peut être produit, géré par le biais du numérique.
Ok. Et du coup, aujourd'hui, tu as créé une société qui est INO et qui conseille dans les domaines de l'open source et de l'open data. Tu peux nous en dire peut-être un peu plus ?
Alors, c'est InnoCube, le nom de la structure.
Ok.
Et donc, c'est un cabinet qui accompagne tout type d'acteurs privés et publics sur ce qui est de l'ordre de la stratégie d'innovation sur la base de la collaboration.
Ok.
Mais l'idée, c'est que finalement, plusieurs personnes... Pardon ?
Non, oui. C'est bon, je te laisse.
J'allais dire, plusieurs personnes plutôt que deux peuvent très bien avoir un intérêt à produire ensemble un logiciel, une base de données, une création, quelle qu'elle soit.
Tu peux juste nous répéter ta phrase, il nous manque un petit bout.
On a été coupé,
ouais. Alors, je ne sais pas à quel moment, mais ce que je disais, c'est que le principe, c'est que la création, l'innovation, aujourd'hui, c'est de plus en plus avec les autres, donc de manière collaborative. Mm-hmm. Et nous, c'est ce sur quoi on travaille principalement. Donc, la collaboration appliquée au logiciel, appliquée aux bases de données, appliquée à la recherche, à la production de la recherche et à la publication de la recherche. Et on peut trouver plein de cas d'application de cette logique de collaboration. Parce qu'une seule personne crée, elle s'entoure d'une communauté, donc elle rejoint une communauté avec d'autres personnes qui ont des intérêts convergents aux siens. Et elles créent ensemble. Donc, dit comme ça, ça paraît du bon sens. C'est quelque chose qui se constate de plus en plus et qui marche. D'un point de vue juridique, c'est plus complexe parce que chacun des acteurs, finalement, de cette communauté est en tant que créateur, en tant qu'inventeur, ou peu importe, va être titulaire de droit. Et ce sur quoi on va travailler, c'est l'accompagnement dans la mise en place d'un cadre de collaboration. Définir dans quelle mesure plusieurs personnes peuvent en confiance, travailler pour produire des ressources qui soient à la fois des ressources ouvertes, partagées, mais aussi pérennes, donc dans le temps.
Okay.
Et ça, on le fait peut-être juste pour venir là-dessus, à l'échelle de projet. Donc, j'ai un logiciel, finalement, je veux réutiliser ce que les autres ont fait, voire je veux le diffuser moi-même de manière ouverte. Comment faire, quel modèle économique mettre autour de ce projet, pareil pour une base de données ou autre. À l'échelle d'une organisation, je suis un ministère, je suis une société plus ou moins importante. Je veux pouvoir, dans le cadre soit de ma DSI, soit de mes directions métiers, pouvoir utiliser et être bénéficier de ce courant ouvert et collaboratif, établir une stratégie, décider quand est-ce qu'il est pertinent de le faire, la manière de le faire. Et ce qu'on voit de plus en plus qui est assez intéressant, c'est les logiques d'écosystème, c'est-à-dire finalement se rapprocher d'homologues. Pour l'exemple sur lequel on a travaillé dans le domaine de la, de l'énergie, dans le domaine du spatial, dans le domaine de la mobilité ou de la logistique, se constater, déjà c'est la première étape, constater qu'il y a d'autres personnes qui ont les mêmes besoins que nous en termes de création numérique, et une fois qu'on l'a constaté, se mettre autour d'une même table et définir les règles qui nous permettent de produire ensemble ce dont on a chacun besoin. Et là, le moyen le plus logique, en tout cas celui qui fonctionne, c'est vraiment le logiciel libre, l'open source, l'open data, tous ces grands mouvements collaboratifs. Okay. C'est ce sur quoi on accompagne ces acteurs.
Ok. Et donc, tu peux nous donner quelques exemples concrets de cas clients emblématiques ?
Oui. Alors, j'ai commencé à en parler beaucoup dans le cas du spatial. Il y a notamment le CNES qui avait initié la mise en place d'une communauté qui s'appelle Open Space Makers. Et donc le projet Fédération Open Space Makers, c'est une communauté d'acteurs dans le monde spatial qui produisent des projets ouverts et collaboratifs. Enfin, on a eu le plaisir de travailler avec eux justement pour définir le cadre de collaboration qui permette d'intégrer des industriels, d'intégrer des institutions et différents types d'acteurs. Un autre projet que je peux évoquer, c'est plus orienté open data peut-être. C'est des stratégies sur lesquelles on a pu travailler avec des départements, voire avec des grandes institutions. Je peux parler pareil du CNES ou d'autres acteurs du type Éco-France qui ont des démarches d'ouverture et de partage de données, mais aussi de réutilisation de données de tiers, donc d'avoir une vision globale du bénéfice et des modalités d'ouverture et de réutilisation des données. Et enfin, sur la dimension plus logicielle, libre et open source, là on a une multitude d'acteurs avec lesquels on a pu travailler, que ce soit des banques, avec la Société Générale, des équipementiers, des constructeurs, je pense à Valeo, ou encore des acteurs plus, dans le courrier, la messagerie collaborative, BlueMind, Entréon, Normation, il y en a beaucoup plus, donc je ne peux pas tout citer.
Ok. Pour finir, est-ce que tu aurais un petit conseil à donner relativement à l'open source pour, par exemple, un élève ingénieur à l'UTC ou toute autre personne qui prend des décisions pour les questions d'innovation ?
Ce que je dirais, c'est que l'open source, c'est plus un moyen qu'une fin. Ce qui est important, c'est de comprendre. En fait, c'est plus cette dimension culturelle, généralement, qui manque. C'est comprendre les bénéfices qu'on a à travailler avec d'autres. Et une fois qu'on a compris ça, s'intéresser aussi aux aspects juridiques. Là, je pense aux licences, mais il n'y a pas que ça. Qui sont les prérequis nécessaires pour qu'on puisse travailler en confiance avec des gens qu'on ne connaît pas, qui sont au bout du monde, qui nous ont partagé un bout de code et qui ont défini les règles de réutilisation de ce code-là. Donc, je le formule sous forme de préconisation, mais in fine, c'est ce qu'on constate de plus en plus. Se sensibiliser aux aspects juridiques et organisationnels liés au projet desquels le code qu'on réutilise est issu, et aussi peut-être rentrer dans des logiques d'open source ou de logiciels libres en termes de recrutement ou d'identification des entreprises ou des organisations dans lesquelles ils aimeraient pouvoir être recrutés. C'est de plus en plus utilisé d'un point de vue RH, ressources humaines, au sein des acteurs qui ont besoin du numérique pour assurer leur activité. Et donc, de plus en plus, les contributeurs qui sont les contributeurs de leur projet sur GitHub, GitLab ou SEG sont des personnes qui sont beaucoup plus faciles à recruter pour eux parce qu'ils ont déjà travaillé avec, ils connaissent leur... Très bonne façon, je pense, pour...
Il nous manque encore un bout.
Pour un élève ingénieur. Oui.
Il nous manque encore un bout, tu as dit, des personnes qui sont plus faciles à recruter.
Oui, les personnes qui contribuent déjà sur des projets qui sont diffusés en open source sur une plateforme du type GitHub, Framagit ou autre plateforme collaborative, les contributeurs à ces projets open source sont des gens qui sont facilement identifiés, les connaissances, les compétences sont déjà là. Et donc en termes de pour pouvoir être recruté par les structures qui sont derrière et qui s'impliquent, c'est une très bonne vitrine. Et de fait, c'est de plus en plus utilisé au sein des directions numériques, en tout cas des départements qui s'intéressent au numérique dans ces organisations, pour aller chercher les bonnes personnes et pour faire un recrutement, je dirais, sur mesure, au travers des contributions des uns et des autres.
Ok, merci.
Avec plaisir.
Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup à toi, Benjamin, de cet échange. Bah écoute, on sait que tu nous as dit que tu étais pris, que tu avais déjà retardé un peu ton agenda pour nous, donc on va te libérer, mais on aura peut-être l'occasion de t'interroger à nouveau à l'occasion.
Avec plaisir, merci beaucoup.
Merci beaucoup Benjamin, bonne journée, ciao.
À très bientôt.
De même, au revoir.
Alors Stéphane, j'ai cru comprendre que tu étais un petit peu le chef d'orchestre de cette émission. Je sais pas trop ce que tu nous as préparé, mais je crois que tu as la main.
Alors l'idée hein, de cette émission qui va probablement se dédoubler, c'est effectivement, et je vais rebondir sur ce que Benjamin a dit, on a plutôt pour le moment une démarche militante, on va dire, dans le cadre de l'émission, qui consiste à dire le libre c'est bien, le libre c'est mieux. Benjamin a insisté là aussi sur la dimension juridique, c'est-à-dire qu'à un moment, comprendre aussi au moins un minimum les fondements juridiques dans lesquels on évolue, eh bien, ça me paraît important. Et donc, on va essayer de faire une sorte de petit cours, quoi, mais comme je ne suis pas prof de droit, on va essayer de faire en sorte que ce soit plus rigolo que mes cours d'informatique. On va commencer, Quentin, puisque tu m'as donné la parole, je vais te la rendre, et je vais donc te donner un exercice assez difficile. J'ai moi-même pas très bien réussi la dernière fois que je l'ai tenté, on va voir si tu fais mieux.
Bah, ça commence bien Stéphane, on n'aurait jamais dû te laisser faire ça. Hein.
Je vais donc demander de nous lire un extrait du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry, donc un roman qui a été écrit en 1900, publié en 1943, et je parle pas de date de façon anodine, et il s'agit du chapitre 13. Tu as la main, on t'écoute.
Allez, bah écoute, c'est parti. La quatrième planète et ses scènes du businessman. Cet homme était si occupé qu'il ne levait même pas la tête à l'arrivée du petit prince. « Bonjour, lui dit celui-ci, votre cigarette est éteinte. 3 et 2 font 5, 5 et 7, 12, 12 et 3, 15, bonjour, 15 et 7, 22, 22 et 6, 28, pas le temps de la rallumer, 26 et 50, 31, ouf, ça fait donc 501 622 731. Mais 520 millions de quoi ? Hein, tu es toujours là ? 500, 1 million de... Ah, je ne sais plus, j'ai tellement de travail, je suis sérieux, moi, je m'amuse pas à des balivernes. 2 et 5, 7... 500, 1 million de quoi ? Répéta le petit prince qui jamais de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Le businessman leva la tête. Depuis 54 ans que j'habite cette planète-ci, je n'ai été dérangé que 3 fois. La première cet été, il y a 22 ans, par un hanneton qui était tombé, Dieu sait d'où. Il répandait un bruit épouvantable et j'ai fait 4 erreurs dans une addition. La seconde fois, ça a été il y a 11 ans par une crise de rhumatisme. Je manque d'exercice, je n'ai pas le temps de flâner, je suis sérieux moi. La troisième fois, la voici. Je disais donc 501 millions, millions de quoi ? Le businessman comprit qu'il n'était point d'espoir de paix. Millions de ces petites choses que l'on voit quelquefois dans le ciel. Des mouches ? Mais non, des petites choses qui brillent. Des abeilles ? Mais non, des petites choses dorées qui font rêvasser les fainéants. Mais je suis sérieux moi, je n'ai pas le temps de rêvasser. Ah, des étoiles, c'est bien ça, des étoiles.
Quentin, je suis obligé de t'arrêter, pourtant c'est quand même un plaisir d'écouter le petit prince comme ça, surtout que là on sent que tu commences à te chauffer. mais en fait, est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Est-ce qu'on a le droit de faire ce qu'on est en train de faire ? Alors c'est moi qui t'ai incité, hein, si tu vas en prison je t'apporterai des oranges, mais une question qu'on pourrait se poser c'est la culture est-elle libre ? Et donc par exemple, le petit prince qui est... réputé être le deuxième livre le plus lu au monde, et un livre qui aujourd'hui en tout cas énormément de succès. Est-ce qu'à votre avis c'est libre ? Est-ce qu'à votre avis on peut le copier, le diffuser librement à ses amis ? Est-ce qu'on peut en faire une lecture publique à la radio ?
Alors, honnêtement, je réponds relativement naïvement. Je crois que oui, à cause d'une une limite... Un temps donné, je crois un truc comme 70 ans à partir duquel on peut copier les choses, les rediffuser librement, peut-être, je crois.
Il y a une histoire de 70 ans, en effet. Alors c'est 70 ans après quoi ? Vous savez déjà, on peut peut-être parler de ça ?
Après la mort de...
Ah, c'est après la mort.
Après la mort de l'auteur.
Ah, oui. Donc du coup, je suis...
Il y avait un piège, effectivement. Je vous ai dit que c'était écrit en 43, mais en fait, on s'en moque. Effectivement, il y a une règle, on va en reparler, hein, qui est donc 70 ans après la mort d'un auteur. En général, le livre tombe ou monte dans le domaine public et en effet, il y a un certain nombre de droits qui se libèrent. Alors pour information, Antoine de Saint-Exupéry est mort le 31 juillet 1944. C'était donc il y a plus de 70 ans. Et donc...
J'irai pas en prison.
Eh bien si, parce que ça ne s'applique pas dans ce cas-là, on va le voir, c'est un cas assez intéressant. Alors déjà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le cas général, eh bien on n'a pas le droit de le faire, on est d'accord.
Ouais.
Hein, donc okay. Déjà c'est quand même une première chose à noter, tu voulais...
Non.
C'est ce que tu voulais dire, ouais, Romain, ouais, c'est ça, hein, c'est que déjà dans le cas général, il faut savoir que, eh bien, à partir du moment où quelqu'un a fait une œuvre, eh bien on n'a pas le droit de s'en servir, donc c'est plutôt pas libre quoi. Alors historiquement, ça remonte, la première formalisation des droits d'auteur, ça remonte à 1789 en France, hein, à la Révolution française. Ça remonte en France à 1789, ça dépend un petit peu des pays. Et à l'époque, eh bien, c'était déjà pendant toute la vie de l'auteur, plus 5 ans. Voilà, donc il y avait 5 ans de plus. Une autre date intéressante, c'est qu'à partir de 1886, eh bien, la Convention de Berne a commencé à engendrer une harmonisation internationale. Donc tous les pays ont commencé à faire à peu près pareil. Et aujourd'hui, eh bien, la Convention de Berne prévoit une protection de 50 ans après la mort de l'auteur au minimum. Certains pays font plus, donc en France, on l'a vu, c'est au moins 70 ans. Et la plupart des pays aujourd'hui, enfin une bonne partie des pays, adhèrent à la Convention de Berne, donc c'est à peu près l'arrêt qui s'applique partout. Mais alors, dans le cas de notre Antoine de Saint-Exupéry, eh bien, il se trouve que la France a prorogé les droits de 8 ans pour toutes les œuvres qui ont été, enfin, pour les auteurs qui ont vécu pendant les deux guerres mondiales. Et puis un bonus de 30 ans également pour les morts pour la France. Donc comme Antoine de Saint-Exupéry est mort pour la France, eh bien il y a 38 ans de plus, je vous laisse faire les calculs, mais je crois que c'est 2032 pour le Petit Prince. Alors je résiste pas à vous faire réagir à la fin de l'extrait que tu n'as pas lu, Quentin, mais je vais lire donc la fin du chapitre ou un autre morceau, je ne sais plus si c'est exactement la fin. Allez, j'y vais. « Comment peut-on posséder les étoiles ?» demande le petit prince. « À qui sont-elles ?» riposta grincheux le businessman. « Mais je ne sais pas, à personne. Alors elles sont à moi, car j'y ai pensé le premier. » « Ça suffit. Bien sûr, quand tu trouves un diamant qui n'est à personne, il est à toi. Quand tu trouves une île qui n'est à personne, elle est à toi. Quand tu as une idée le premier, tu l'as fait breveter, elle est à toi. Et moi, je possède les étoiles, puisque jamais personne avant moi n'a songé à les posséder. » On pourrait se demander si, effectivement, Antoine de Saint-Exupéry serait totalement d'accord avec le mécanisme de propriété intellectuelle tel qu'il est appliqué à l'endroit de son œuvre.
Ironique, effectivement.
On continue, j'ai d'autres questions pour vous.
Eh bien, c'est parti.
Alors, on va prendre une belle photo d'un chaton. Alors, à la radio, ça passe moins bien, mais on imagine tous une belle photo d'un chaton. Je l'ai trouvée sur Internet, comme on dit, hein, je l'ai trouvé sur un site quelque part. Et bah, j'ai inscrit à l'intérieur UT Chaton pour faire une association de défense des chatons. J'en ai fait une belle affiche et je souhaite donc la mettre en ligne sur mon site web. À votre avis, est-ce qu'on peut faire ça?
Non.
Ouais, non.
Je dirais non aussi.
Peut-être, mais par défaut, non.
Oui, c'est ça. C'est en l'absence de licence supplémentaire au niveau de la photo.
Ouais, donc par défaut, quand on trouve un truc sur Internet, comme on dit, hein, quand on accède à un contenu, une image, une vidéo, eh bien on a le droit de la consulter, mais on n'a pas le droit de la recopier. Donc on ne peut pas, effectivement, dans le cas général, se la réapproprier pour un site. En fait, on ne peut pas la copier et on ne peut pas la représenter publiquement. Alors, vous avez donné une piste, hein, c'est quoi cette histoire distante? Vous voulez en dire un mot? On y reviendra probablement plus tard ou la prochaine émission, mais si ça vous inspire...
Moi, il me semble que du coup, par défaut, c'est le droit d'auteur qui s'applique, donc on n'a simplement rien de droit de faire, à part, comme tu l'as dit, la consultation de l'image. On peut quand même demander, je crois, même s'il n'y a pas de licence particulière, l'autorisation expresse de l'auteur pour pouvoir, dans un cas particulier, dans un cas précis, la recopier, donc, ou la modifier, ou enfin, ce qu'il voudra bien nous donner. Donc dans ce cas-là, ça fonctionne. Et sinon, il peut, ça on en reparlera, licencier son contenu afin d'encadrer la réutilisation qui est faite de son travail. Et en particulier, si c'est une licence libre, comme les musiques, la plupart du temps qu'on passe sont sous licence libre, ça permet aux gens de la réutiliser, voire de la modifier sans l'accord de l'auteur, mais tout en le citant, parce que le droit d'auteur est... Je ne sais pas quel est le terme technique,
on va y revenir, tu as raison. Ouais. Mais effectivement, en fait, ce n'est pas sans l'accord de l'auteur, c'est bien avec un accord que l'auteur a donné a priori. Hein. Mais donc effectivement, la règle, c'est qu'il faut un contrat en fait, avec l'auteur quand on veut utiliser ses contenus. Et bien, une des façons hein, sur lesquelles on viendra, c'est les licences. Mais c'est pour plus tard. Pour le moment, on en est toujours à explorer le fait de se demander si la culture est libre ou pas. Alors, j'ai écrit un poème, je vais vous le lire. Vous êtes prêts? Wow. C'est un poème en anglais en plus. The cat sat on the mat. Ok, vous rigolez, mais allez-y, faites-en un poème. Vous.
Hein bah, celui-là, c'est pas toi qui l'as écrit. Hein.
C'est pas moi qui l'ai écrit ?
Je crois pas, non.
Ah mince, normalement, c'était un effet pour plus tard. Pour le moment, tout le monde devait croire que je l'avais écrit.
Bon, pardon.
Non, on va tous faire semblant de croire que c'est moi qui l'ai écrit. Pourtant, j'en ai choisi un, on pouvait croire que c'était moi qui l'avais écrit.
T'es vraiment fort, Stéphane. Il n'y a que quelqu'un d'aussi fort qui aurait pu écrire un roman comme Trace.
Une question qu'on... Alors, imaginez maintenant tous, là, que tous vous êtes en train d'écouter l'émission, là. Si vous commencez à écrire, vous aussi, un bout de poème, un vers, voilà. Question, est-ce que ce bout de poème est protégé ? Vous êtes dans une voiture autonome, vous avez lâché votre volant, vous écoutez l'émission, et vous avez noté sur votre tablette préférée, sous licence libre, un bout de poème. Est-ce que c'est protégé ou sur un bout de papier ?
Par défaut, il me semble que oui. Il me semble que c'est protégé.
Alors, c'est quoi cette histoire de dépôt ? Il n'y a pas des gens qui parlent de dépôt, des fois ? Il faut déposer des trucs ou alors c'est protégé tout de suite ?
Il me semble que ça dépend du type de propriété qu'on veut protéger, mais pour une œuvre, il me semble que c'est protégé par défaut.
Donc, dès qu'on a commencé à écrire un truc, c'est protégé ?
Bah, après, je pense que ça dépend de la longueur du truc aussi, de la proportion par rapport à l'œuvre totale.
Il y a une histoire de personnalité de l'auteur, de...
Ouais, il me semble qu'il y a ça aussi, ouais, un truc un peu...
Il faut que ce soit
original.
Quelque chose, ouais, voilà, l'originalité, là, un critère d'originalité ou un truc comme ça.
Ouais.
Mais c'est touchy à définir ça.
Ouais.
Parce qu'il y avait la même question pour le code informatique, genre si tu fais une boucle, est-ce que c'est... Enfin, tu vois, tu peux pas prétendre que t'es l'auteur et qu'il y a que 3 cas de faire des boucles.
Ouais.
Ok.
Alors effectivement, vous avez donné la plupart des clés. Hein. Donc d'abord effectivement le droit d'auteur. Donc quand on est sur une création dite littéraire et artistique, hein, le droit d'auteur se déclenche immédiatement. Donc il y a rien besoin de faire. En fait, dès que vous commencez à écrire un truc, ça se déclenche. Donc il y a pas besoin de faire de dépôt. Néanmoins, ça peut être quand même une bonne idée à un moment de soit faire un dépôt l'INPI ou s'envoyer par exemple une enveloppe par la poste. Enfin quelque chose en fait qui nous permette de témoigner, hein, en cas de contestation, qu'on a bien fait ce truc-là ce jour-là. Donc, il faut quand même des preuves. Vous l'avez dit, il y a une notion d'originalité qui rentre en ligne de compte. Donc, à un moment, ben, ça, c'est au moment du procès, enfin, éventuel, que ça se décide. Est-ce que, à votre avis, il y a un critère de qualité ? C'est-à-dire que mon poème tout pourri, là, d'avant, est-ce qu'il est compte ou pas ? Ou est-ce que ça, voilà ? Est-ce qu'il y a un critère de qualité ?
Selon le juge, ça peut-être jouer, mais je pense que, normalement, c'est pas censé compter.
Non, je pense pas. Hein.
Non, effectivement, il faut qu'il y ait l'originalité, mais ça peut être complètement pourri. Voilà, c'est protégé quand même. Bon, alors Rémi, du coup, tu m'as topé. Tu avais déjà entendu ce poème avant ?
Ouais, bah il est très utilisé pour les exercices en traitement de texte.
D'accord.
Du coup, je le vois.
Et tu sais d'où il vient ou pas, non ?
Non.
Ah, ok. Donc, t'avais pas tout quand même.
Non.
Donc, tu sais que je l'ai pas inventé. Et en effet, je l'ai pas inventé. Il est issu du Cercle des Poètes Disparus. Mmh. Et donc, on le trouve dans le Cercle des Poètes Disparus. Donc, du coup, je suis victime d'un plagiat. Puisque j'ai utilisé un contenu et je n'ai pas cité l'auteur. Enfin, j'étais victime jusqu'à présent.
Tu es victime ou coupable ?
Je suis coupable, tout à fait. Je suis coupable d'un plagiat, autant pour moi.
Victime du droit d'auteur.
Et victime du droit d'auteur, exactement. Merci beaucoup, Rémi. Alors, on pourrait continuer un petit peu. Il se trouve que cet exercice-là, je l'ai fait dans un... Là, je suis à la radio, mais je l'ai fait dans un amphithéâtre. Et imaginez que dans cet amphithéâtre, je passe, bah, tant que j'y suis, un extrait du Cercle des Poètes Disparus. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, à votre avis ? Et où est-ce que Quentin aurait eu le droit de lire son Petit Prince si on n'avait pas été à la radio, mais dans un amphi ?
Il me semble qu'il y a l'exception pédagogique qui fait que tu as le droit de faire un peu ce que tu veux tant que c'est dans le cadre de l'université et qu'il n'y a pas de public autre que tes étudiants.
Ouais, en effet, l'idée du droit d'auteur, on l'a vu, c'est qu'il y a une protection automatique. On va revenir un peu sur les différents aspects de la protection. Mais donc, il y a une protection automatique, mais en revanche, il y a un certain nombre d'exceptions. En fait, on en a déjà cité une, hein, 70 ans après la mort de l'auteur, les droits patrimoniaux sont épuisés. Donc, on peut réutiliser l'œuvre sans payer. Et ensuite, il y a d'autres exceptions. Donc, l'exception pédagogique en fait partie. On a le droit d'utiliser effectivement des contenus culturel dans un cadre pédagogique, mais alors il y a un certain nombre de règles, hein. Par exemple, faut pas rigoler, quoi, hein. Si on regarde le Cercle des Poètes Disparus, c'est sérieusement un peu comme notre businessman de tout à l'heure. Si en revanche dans le même amphi les mêmes personnes regardent le Cercle des Poètes Disparus, mais juste pour le plaisir, eh bien, ça compte plus. Donc, il faut qu'il y ait une intention pédagogique, effectivement, que des élèves, des profs, etc. Donc, ça suppose en particulier que, bah, par exemple, on ne peut pas le remettre en ligne, évidemment, et même, on ne peut pas le diffuser à la radio. C'est pourquoi vous n'aurez pas d'extrait, pas du tout, parce qu'on n'a pas pris le temps de le préparer.
Il n'y a pas une histoire de droit de citation ou quelque chose du genre ?
Ou droit d'illustration, un truc comme ça, non ? Il n'y a pas un...
Ouais, parce qu'il me semble qu'il y a une émission, on avait passé un petit bout d'une autre émission qu'on n'avait pas le droit d'utiliser et que tu nous as dit que ce n'était pas grave.
Ok, carrément. Alors effectivement, vous avez raison, avant même d'utiliser mon exception pédagogique, j'aurais pu, lorsque je présentais un morceau du Cercle des Poètes Disparus dans un amphithéâtre, faire valoir le droit de citation. Alors le droit de citation ou de citation courte, en fait, ça veut dire qu'on a effectivement le droit de réutiliser un morceau, mais pareil, il y a des règles, faut pas que ce soit trop. Hein, faut pas que ce soit trop. Donc tout à l'heure, j'ai arrêté Quentin, j'espère, au bon moment. Pour une vidéo, je crois que c'est vraiment quelques secondes. Il y a d'autres règles assez, assez intéressantes. Par exemple, pour une musique, je crois qu'il faut pas que la musique puisse être reconnue. Donc on a le droit d'utiliser un morceau de musique, mais dès qu'on la reconnaît, hop, le droit de citation fonctionne pas.
Ouais, faut voir légalement ce que ça veut dire reconnu.
Ouais,
oui, comme pas trop long.
Moi, j'ai une super oreille, les gars. Je vais mettre tout le monde en prison.
C'est ça. Honnêtement. Puis si c'est moi qui chante, je peux vous assurer que
souvent, toute la chanson là.
À la moitié des gens, ils sont toujours pas reconnus, quoi. Alors voilà, on peut continuer un peu. J'ai un exemple suivant. J'aurais dû l'adapter parce qu'il est pas ultra radiophonique.
Je suis sûr que tout le monde, tous les gens qui écoutent cette émission ont une imagination débordante. Ok. Vraiment.
Ok. Donc imaginez, on va prendre le portrait de la Joconde par exemple. Hein, tout le monde l'a à peu près en tête. Et donc imaginez que je vous présente le portrait de la Joconde et que je vous dise que ceci est un autoportrait de Stéphane Crozin. Par Stéphane Crozin. Est-ce que j'ai le droit de faire ça, sachant que c'est, comme vous le savez, l'auteur est mort depuis longtemps. Donc, est-ce que j'ai le droit à votre avis, de faire ça, de dire ça ?
Alors, je pense pas, parce qu'il y a un droit à la paternité qui est inaliénable et éternel, un truc comme ça.
Ouais, intemporel, ouais, tout à fait.
Éternel, ça sonne mieux.
Ouais, éternel, ça fait plus joli. Ok, et donc tu sais ce que ça veut dire, donc ouais, effectivement, tu l'as dit, donc il y a effectivement le droit à la paternité. Il y a aussi le droit à l'intégrité de l'œuvre. Donc en fait, j'ai fait deux entailles à la Joconde, c'est que j'ai menti sur l'auteur, puis j'ai menti sur le sujet, puis c'est pas un autoportrait de moi, c'est ressemblant, mais j'étais pas né, donc ça peut pas être moi. Et ok. Je suis assez d'accord, t'as donné un peu la réponse à ma deuxième question, mais je la pose quand même. Sauf que je vous annonce un scoop, c'est qu'en fait j'ai un contrat avec les héritiers de Léonard de Vinci qui m'autorise à utiliser l'ensemble de ses œuvres, et donc je suis autorisé à faire ce que je veux, j'ai un contrat qui le prouve, je vous le montre là dans l'émission, vous le voyez tous. Alors du coup c'est bon, j'ai le droit ?
T'es sûr que les héritiers sont les détenteurs du droit moral de...
Ouais, carrément, okay. carrément. Donc là, ils sont détenteurs, c'est les bons, tout va bien. D'accord, c'est vraiment les vrais détenteurs. Ils m'ont donné les droits. Donc ça va, là, du coup.
Ouais, c'est ce que disait Romain, c'est que la loi autorise pas à céder les droits patrimoniaux. Non.
Si, moraux, justement.
Ouais, oui, c'est ça, ouais.
Et effectivement, le contrat, en admettant qu'il existe, eh bien, il n'est pas valable parce que, comme tu l'as dit, le droit d'auteur, eh bien, il est inaliénable et imprescriptible. Et donc, eh bien, il est impossible pour un auteur de renoncer, en quelque sorte, à ce droit moral. Il est interdit de le vendre, mais il est même interdit d'y renoncer. C'est ce qui fait que, bien, par exemple, Quentin, à chaque fois qu'il parle d'un certain nombre d'œuvres artistiques, il est obligé de citer l'auteur, à chaque fois, même s'il ne le voulait pas, eh bien, que ce soit sous licence libre. Alors, est-ce que vous avez d'autres remarques, questions autour de ça ? On peut peut-être s'arrêter pour aujourd'hui, faire un petit bilan.
Ouais, c'est ça. Bah, sur le droit d'auteur, je pense que ce serait utile de nous reséparer en deux, de faire un petit résumé là-dessus. Et du coup, donc, ouais, aussi ce que tu disais, c'est que si moi je crée quelque chose demain, je peux vraiment pas renoncer, même si je veux toutes mes forces, même si je vais voir quelqu'un et que je lui dis fais-en ce que t'en veux, s'il le fait, je peux l'attaquer en justice, quoi. Je peux vraiment être un salaud.
Alors après, je suis pas suffisamment fort en droit pour vraiment savoir si vraiment tu lui as donné, qu'il y a des témoins, etc. Est-ce qu'on va pas te reprocher aussi de l'avoir trompé ? Donc après,
oui, ça,
on rentre dans des mécaniques un peu complexes. Mais effectivement, fondamentalement, le droit impose le respect du droit moral et empêche de le céder. Donc effectivement, il n'est pas logiquement pas possible de le céder. Je vous propose, on refait un petit bilan rapide et puis on refera une émission la prochaine fois, ou peut-être on repartira de ce bilan et on verra justement quelles sont les alternatives qu'on a, même si on a déjà fait une émission sur la culture libre.
Donc c'est bon, ça c'est une vraie promesse, au moins 2 émissions.
Ouais, carrément, il me reste la moitié de la présentation, bon, donc on est bon. On en fera une courte comme d'habitude. Donc on l'a vu, les contenus culturels sont donc protégés dès qu'elles sont créées, hein, y a rien besoin de faire, même si elles ne sont pas finies, même si elles ne sont pas publiées, quel qu'en soit le mérite ou la destination. Donc voilà, même les trucs pourris et pas finis sont protégés, à condition néanmoins que les œuvres soient originales, donc il faut qu'elles portent une empreinte de l'auteur, et il faut également qu'elles soient mises en forme, hein, on entend souvent que les idées ne sont pas protégées, donc uniquement à un moment sous cette forme et sous une expression. Faut que ce soit fixé. Donc, par exemple, si vous voulez protéger si vous voulez que votre numéro de tour de cirque soit protégé par le droit d'auteur, bah, faut le filmer, par exemple, ou le décrire dans un document. Donc, on l'a vu, les droits d'auteur appartiennent aux auteurs. À noter, même s'ils sont salariés, hein, ça fonctionne dans le cas général. Bien sûr, si vous avez un contrat de travail dans lequel vous cédez vos droits patrimoniaux, je vais revenir un petit peu sur cette séparation, et bien évidemment, ils vont appartenir à votre entreprise, mais ce n'est pas le cas en général. C'est le cas, cela dit, il y a quelques exceptions pour les journalistes ou certains agents publics, la plupart en fait, mais pas les enseignants-chercheurs, il ne faut quand même pas rigoler. Nous, on reste totalement propriétaires de notre droit. Donc, des exemples d'œuvres protégées, livres, musique, chansons, films, dessins, peintures, sculptures, photographies, articles scientifiques, conférences, plans d'architectes, cartes géographiques, logiciels, on l'a dit. Le logiciel se rapporte aux droits d'auteur. D'autres exemples que je n'ai pas cités. N'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez compléter. Je vous l'ai dit, le droit d'auteur en fait se divise en deux morceaux, le droit moral et le droit patrimonial. Donc le droit moral, ça veut dire que, donc on l'a vu, il est inaliénable et perpétuel, hein, donc on ne peut pas l'enlever. Donc c'est le droit à la paternité et au respect de l'intégrité de l'œuvre. D'accord ? Donc pour ce qu'on peut retenir, hein, basiquement, c'est qu'au minimum, quoi que vous fassiez avec le contenu de quelqu'un, vous êtes au moins obligé de citer l'auteur. Ça, c'est impossible que ce soit autrement, en quelque sorte, en droit français. Le droit patrimonial, lui, peut être cédé par contrat, et donc lui comprend le droit de copier et de représenter publiquement l'œuvre. Donc ça veut dire que, on l'a bien compris aussi, par défaut, vous n'avez pas le droit de copier, vous n'avez pas le droit de représenter publiquement une œuvre. J'avais pas le droit de vous réciter ce poème. Il faut qu'il y ait l'autorisation avant, de l'auteur. Avec un certain nombre d'exceptions, on l'a vu, exception pédagogique, 70 ans après la mort de l'auteur, sauf cas particulier, etc., etc. Voilà, la courte citation également. Une autre peut-être qu'on peut citer, puisqu'on l'a mobilisée dans les précédentes citations musicales, mais aujourd'hui on va changer un peu de registre. Par exemple, c'est le droit à la parodie, donc on a le droit de parodier une œuvre et... pareil, faut que ça fasse rire, faut qu'il y ait l'intention de faire rire. Mais dans ce cas-là, je suis pas sûr que ce soit obligé que ça marche, mais faut qu'il y ait l'intention de. Dans ce cas-là, on a également le droit de produire une œuvre sans l'accord de l'auteur. Je propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et qu'on enchaîne la semaine prochaine sur comment est-ce qu'on peut hacker le droit d'auteur avec les licences libres. Et donc peut-être un peu de musique libre et non parodique.
Ah bah carrément, avant ça peut-être qu'on lance, le quiz.
Eh bien pourquoi pas, quitte à faire comme d'habitude, autant faire comme d'habitude.
Allez, je me lance. Alors le quiz d'aujourd'hui c'est dans quel cas doit-on demander une autorisation pour utiliser une œuvre protégée? Réponse 1, pour citer un extrait de l'œuvre sur son site web en prenant soin de mentionner l'auteur. En deuxième, pour mettre en ligne une copie numérique de l'œuvre complète sur son site web en prenant soin de mentionner l'auteur. En troisième, pour diffuser une musique dans le cadre d'un événement public. En quatrième, pour créer une version de l'œuvre accessible aux personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés. En cinquième, pour mettre une parodie de l'œuvre sur mon site web. Et pour finir ce quiz interminable, pour faire une copie de l'œuvre sur une clé USB rangée dans mon bureau à des fins de sauvegarde. Et on va pouvoir passer à la musique. Alors effectivement, en plus, Stéphane, tu mentionnais un petit teaser pour l'émission de la semaine prochaine. Est-ce que nous, on a le droit de passer cette musique? Pareil pour l'émission. Nous, on aimerait bien que vous repreniez l'émission, que vous la diffusiez un peu partout. Pourtant, on ne vous a jamais donné le droit. Est-ce que vous pouvez le faire?
Eh bien, est-ce que les gens peuvent le faire?
Exactement, c'est ça, est-ce que les gens peuvent le faire? Est-ce qu'ils vont aller en prison? Est-ce qu'ils le sauront avant la semaine prochaine?
Eh bien non, on leur dira la semaine prochaine. D'ici là, ils prennent le risque d'aller en prison s'ils le font, mais prenez des risques.
Allez-y. Et du coup, pour terminer cette émission, on va écouter le morceau Die Connection du groupe Alone in the Dark sur l'album Welcome in the Sun et c'est sous licence Créaction. Bonne écoute. Sur Graphite 94.9.
Nous ne t'entendons pas.
Ah. Non, nous ne t'entendons
et
pas.
C'est beaucoup mieux de retour bon. sur Graphite. C'était Die Connection de Alone in the Chaos et non pas Alone in the Dark. Désolé pour l'erreur. Il est temps de répondre au quiz.
Alors le quiz, je vais tenter d'y répondre. Je vais prendre les réponses une par une et essayer d'apporter une réponse. Alors la première était, est-ce qu'on a besoin de demander l'autorisation de l'auteur pour citer un extrait de l'œuvre sur son site web en prenant soin de mentionner l'auteur? Il me semble que non. Stéphane me confirme.
Non, c'est bon.
La deuxième était, pour mettre en ligne une copie numérique de l'œuvre complète sur son site, même en mentionnant l'auteur, là il faut demander une autorisation. Ensuite, pour diffuser une musique dans le cadre d'un événement public, je ne sais pas, je pense qu'il faut au moins une autorisation de la SACEM, pas ouais. forcément des auteurs.
Bah, du coup, ça revient à ça, en fait, avec un, ouais. avec un décalage, un proxy, une transitivité. C'est bon, on est parti, à toi.
Alors, tout de suite, ça fait le malin. Hein.
Ensuite, faut-il demander l'autorisation de l'auteur pour créer une version de l'œuvre accessible aux personnes ayant des difficultés de lecture de textes imprimés? Il me semble que non, puisqu'on ne modifie pas et qu'on ne redistribue pas, juste on transforme.
En vrai, non. Ça, si ça avait été une simple traduction, par exemple, dans une autre langue, il fallait l'autorisation. Mais là, ça fait partie des exceptions qu'on n'a pas mentionnées. Mais du coup, ça fait partie des exceptions. On a le droit de modifier l'œuvre à condition de la rendre plus accessible.
Mmh. Ok. Ensuite, pour mettre une parodie de l'œuvre sur mon site web, du coup, comme on l'a dit, c'est bon. Pas besoin de demander l'auteur. Et le dernier point était pour faire une copie de l'heure sur une clé USB rangée dans mon bureau à des fins de sauvegarde. Et là, on a le droit aussi sans demander à l'auteur. C'est l'exception qu'on n'a pas citée, qui est l'exception de copie privée, qui permet du coup de faire des sauvegardes pour soi et de le diffuser dans le cadre privé, genre en famille ou avec des amis.
C'est d'ailleurs, il me semble, juste pour info, qu'à chaque fois qu'on achète un support de stockage, que ce soit une clé USB, un téléphone, on est taxé ça, sur la copie privée, donc... Voilà, c'est quelque chose auquel chacun contribue.
Sachant que très souvent, on ne peut pas le faire techniquement à cause des moyens techniques de protection des œuvres, dont on parlera peut-être la semaine prochaine.
Tu commences à t'insinuer que ce serait une situation un peu paradoxale, Rémi ?
Ouais, et que la jurisprudence dit que on a l'exception à la copie privée, mais que c'est pas un droit, donc si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire.
Ok, je vois vraiment pas ce que t'insinues.
Bon, on arrête avant que l'émission reprenne une tournure militante, ou alors on invite quelqu'un de la quadrature et on repart. Mais
allez. Je pense que ça suffira pour cette semaine.
Bon, et écoutez, c'était cool. La meilleure conclusion. Non, du coup, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, carrément. J'avais Inno3 pour InnoCube.fr pour la société de Benjamin Jean. Et sinon, on peut retrouver pas mal de vidéos de Calimax sur...
Je vais les retransférer sur librecours.net et on fera des liens entre-temps parce que les liens pour le moment sont un petit peu cachés.
Ok, nickel. Et bonne fin de matinée à tous et à la semaine prochaine. Ciao.
Salut.
Salut.